fermé jusqu'aux dents. Ça, c'est vraiment blindé, hein? Fermé jusqu'aux dents, pas de doute. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul ici ne décrit pas la vie chrétienne. Ah, les enfants, oui, c'est vrai, les autres. Il parlait des autres classes, allez-y, oui, allez-y. J'ai parlé des ados, j'ai oublié les autres. Bon. L'apôtre Paul ne parle pas de la vie chrétienne comme un voyage d'agrément. Quoique, quand la vie est agréable, on ne s'en plaint pas. Hein? Mais il en parle, il la décrit comme un champ de bataille. Et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais dès ma conversion, j'ai pris conscience par une certaine expérience que c'était vraiment un champ de bataille puis qu'il y avait un réel adversaire invisible. Et c'est là-dedans que Dieu nous conduit, à la conversion. Les croyants de l'Ancien Testament luttaient physiquement contre des adversaires physiques. Ils luttaient contre les Philistins et bien d'autres peuples. Et à titre d'exemple, j'aimerais vous citer ici deux petits versets qui nous parlent de ce genre de lutte qu'ils menaient contre d'autres hommes. Dans le livre des Chroniques, au chapitre 12, bon, il est ici, chapitre 12, ok, au chapitre 12 et au verset 8, il est écrit ceci. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Ça, c'était des vrais soldats. Mais écoutez bien ce qui suit. C'était des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Croyez-vous ça? Oui? C'est pas juste une figure de style, c'est pas une parabole, c'était réel. La preuve de cela, Samson, il a battu combien d'hommes? Combien de Philistins? 1000. Avec quoi? Une mâchoire d'âne. Est-ce que c'était la force de l'homme seulement? Non. L'Esprit de Dieu qui était avec lui. Shamgar, un des juges en Israël, a battu 600 Philistins avec quoi? Avec un aiguillon à bœuf. C'est parce que Dieu était avec lui. Et j'aimerais vous dire que les Rambos de ce jour n'ont rien envie à ces gens-là. En fait, nos Rambos, ils font piètre figure. C'est arrangé avec le gars des vues, de toute façon. Tandis que là, c'est Dieu qui agissait au travers des hommes. Et ça, frères et sœurs, c'est une image pour nous montrer que dans la foi, dans le monde spirituel, nous pouvons faire face à une grande adversité, mais la vaincre aussi. C'est ça que ça nous montre. Il y a une adversité spirituelle qui est là. Jésus, dès son entrée au ministère, a été conduit par le Saint-Esprit au désert. Et qui est venu pour le tenter? Le diable. Déjà, le diable s'attaquait à lui pour essayer de le faire trébucher avant qu'il aille plus loin. Et le diable n'a pas changé ses tactiques. On va en voir quelques-unes tantôt. Mais Jésus a libéré les gens qui étaient captifs, par contre. Il a libéré cet homme qui était considéré comme démoniaque, qui brisait les chaînes avec lesquelles on l'attachait. Il y avait une légion de démons en lui. Il a libéré. Alors, c'est une bataille qui est réelle. L'apôtre Paul écrit dans ce même épître aux Éphésiens, et il dit ceci, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. C'est le diable. Les gens du monde ne croient pas trop au diable. En fait, j'ai lu une pensée un jour que j'ai trouvée bien vraie. La plus grande ruse du diable, c'est fait croire qu'il n'existe pas. Alors, c'est juste pour la fun. Ça existe pour vrai. Ça existe pour vrai. D'ailleurs, regardez une décoration qu'on voit sur les terrains, c'est vous aussi. Hein? Des membres, des pierres tombales, des squelettes à la porte. Moi, je ne serais pas porté de rentrer là, parce que ça ne fait pas un bel accueil. Toutes sortes d'affaires, des ténèbres. Mais l'Halloween, l'origine de cela, c'est avec les sorciers. Alors, il y avait de la sorcellerie là-dedans, mais aujourd'hui, c'est une fête pour le fun, on passe aux maisons pour des bonbons, mais il y avait d'autres choses derrière ça. Puis d'autres choses, c'est comme rester. Mais le diable a été vaincu à la croix. Alléluia. Jésus l'a vaincu. Sa puissance a été vaincue à la croix. En Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit quoi? Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a vaincu les autorités spirituelles qui sont contraires aux chrétiens, qui s'opposent à l'Église de Dieu. À la croix, ils ont vaincu. Mais il n'est pas inactif. Et il cherche à prendre l'autorité sur les gens. Et c'est pour ça que Jacques nous dit de lui résister. Pierre dira la même chose. Résistez-lui avec une foi ferme. Alors, il faut résister. C'est pour ça qu'on a besoin des armes pour lui résister. Paul va dire encore à Timothée, combat, le bon combat de la foi. Alors, il y a une lutte, il y a une bataille dans laquelle on est engagé. Et le soldat ou le chrétien lutte d'abord pour sa survie lui-même. Puis, il lutte pour la survie de ses compagnons. C'est comme dans une armée. Le soldat veille sur les autres aussi. Et troisièmement, il lutte pour libérer les gens. Et c'est un peu notre ministère, notre rôle à chacun de nous. Veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos frères et sœurs et libérer les captifs. Notre appel, notre ministère, c'est ça, frères et sœurs. Les libérer de notre domination du diable. Et vous savez quoi? Nous, les chrétiens, on est les seuls à disposer des armes nécessaires pour accomplir cette mission sur cette terre. On est les seuls. Il n'y a pas d'autre personne dans le monde que ce que les chrétiens. En ce sens-là, on est les gens les plus indispensables sur terre. Voyez-vous ça? Pourquoi? Parce que notre intervention envers les gens va avoir une répercussion éternelle. Il y a bien des gens qui influencent le monde, dans le monde des arts, dans le monde de l'économie, dans la politique, mais c'est souvent une influence temporelle et temporaire. Merci de m'aider. Alors que notre influence à nous comme croyants, ça a une portée éternelle. On peut le permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, frères et sœurs, combien notre rôle, notre mission est importante? On a parlé des missions tantôt, est importante à l'étranger et importante ici aussi. L'Église est appelée à amener la présence de Dieu dans ce monde. C'est nous, ça, les chrétiens. C'est nous qui amenons la présence de Dieu dans notre milieu de travail, à l'école, dans le voisinage, partout où on passe. Jésus est en nous et on amène sa présence au monde. Amen. Il faut prendre conscience de qui nous sommes, pas pour s'enorgueillir, mais savoir que Dieu nous appelle à cela. Il nous équipe pour cela. Et l'Église maintient la présence de Dieu en s'assemblant comme aujourd'hui. Pour le louer, l'adorer, élever son nom, entendre sa parole, béni soit Dieu. Alléluia. Paul dit quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous savez, pour avoir d'énergie, il faut faire de l'exercice, n'est-ce pas? Plus on fait de l'exercice, plus on a de l'énergie. Eh bien, comme croyant, on se fortifie en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est là qu'on prend de l'énergie. Par la prière, par la lecture de la parole, par le témoignage, par le combat face aux tentations qui se présentent à nous. Le psaume 18 nous dit ceci. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Dieu est tout ça. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et me suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Il est intervenu d'en haut, il m'a pris, il m'a retiré des grandes eaux, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ils m'avaient surpris lorsque j'étais dans la détresse, mais l'Éternel a été mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Béni soit Dieu. Dieu nous fortifie. Dieu vient notre aide, frères et sœurs. Il nous donne son Saint-Esprit, comme pour le roi David. Dieu nous aide dans ce combat-là. Et Paul dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et quand Paul a écrit cela, il était emprisonné, et non seulement emprisonné, mais enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Alors, il a eu le temps d'observer l'armure que portait un soldat romain. Et puis, le Saint-Esprit lui a inspiré une image. Vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Il lui a inspiré une image pour décrire donc les armes du croyant, le combat dans lequel on est impliqué. Et de ces armes-là, il y en a six. Six, comme ça. Ou comme ça. Cinq sont défensives et une est offensive. Ce sont les armes, donc. Paul voyait qu'il avait vu l'armure du soldat et tout ça. Et on voit que cette armure-là est d'abord pour prévenir contre les flèches ou les lances ou les épées de l'adversaire. Mais il y avait aussi une autre arme, une épée, pour frapper l'adversaire. Alors, frères et sœurs, comme croyants, on est appelé à se revêtir de ces armes-là. Et dans ce court passage qu'on a lu tantôt, Paul dit à quatre reprises, je pense, oui, non, trois fois, en quatre versets, « tenez ferme » ou « tenir ferme ». Alors, c'est une position qu'on a déjà gagnée en Jésus-Christ. On est sur le terrain de la victoire, mais on doit tenir cette victoire-là. On doit la conserver. Ce que Jésus nous a accordé déjà à la croix. Tenir ferme, être sur nos gardes, ne pas lâcher. J'ai lu une histoire un jour de quatre amis qui décident d'aller faire un peu de marche en montagne, un peu d'escalade. Et puis, ils n'étaient pas très expérimentés ni très bien équipés. Et comme ils marchaient sur un sentier qui était au bord d'une falaise, il y en a un qui a perdu pied et a dégringolé quelques mètres plus bas. Alors, les autres lui disent... « Hey, Johnny, t'es-tu correct? »« Ouais, je suis pas pire, mais je pense que j'ai deux bras cassés. »« On va te lancer une corde, on va te tirer de là. » Lance la corde, et commence à remonter leur ami, centimètre par centimètre. Maintenant, il y en a un qui dit, « Hey, Johnny, tu as les deux bras cassés, comment tu fais pour tenir la corde? »« Ah, je vais. » Ça, c'est la septième arme. Si vous avez des prothèses dentaires, là, ben, pas lâcher la corde. Je ne sais pas si c'est là que ça vient armé jusqu'aux dents, mais en tout cas, peut-être. Mais en d'autres mots, il ne faut pas lâcher quand ça devient difficile. C'est ça qu'il dit. Il y a des périodes de la vie chrétienne, là, pas trop de problèmes, pas d'épreuves. La vie est belle, c'est comme un champ de roses. Merci, Olivier, ça a des épines là-dedans. Mais c'est un champ de roses pareil, c'est beau. Mais d'autres périodes que c'est désertique, c'est ardu. Et puis là, Seigneur, j'ai besoin vraiment de ton aide. Seigneur, tu sais pourquoi tu me donnes mes forces, mais j'ai besoin de tu m'aides. Il y a des périodes, c'est plus difficile, pas mal. Puis il y a des choses aussi qui arrivent. Vous parlez tantôt des rues du diable, mais vous allez voir que des fois, même si ça va très bien, c'est là qu'il faut être sur nos gardes. Parce que Paul dit quoi? Si tu crois être debout, prends bien garde de tomber. Quand tout va bien, là, quand tu es dans la victoire, fais attention, le malin va venir par en arrière et va essayer de t'avoir. Alors, il faut être sur nos gardes. Paul parle des ruses du diable. Quelles sont les ruses du diable? Mettre en doute la parole de Dieu. Il a commencé dès la Genèse avec Adam et Ève. Oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Le doute s'installe. Ève et Adam ont douté, puis ont dit, ouais, c'est vrai, tu as bien raison. Dieu n'a pas demandé ça. Puis on sait ce qui est arrivé. Le doute face à la parole de Dieu. Le doute à l'égard d'une promesse que Dieu vous a donnée, en particulier. Éveiller les convoitises. La femme a vu que le fruit était beau à regarder. Elle l'a mangé, son mari pareil. Éveiller les convoitises. La convoitise des biens. On vit dans une société de surabondance, frères et sœurs. Et comme il est facile de convoiter les biens. On vit dans une société immorale. Comme il est facile de convoiter le sexe opposé, on peut être exposé à ça facilement. Convoiter la position de quelqu'un, envier sa position. Le diable, c'est le père du mensonge. Une de ses ruses, c'est « Ouais, mais t'es pas obligé de dire toute la vérité. Disant, arrange ça un petit peu, ça va passer pareil. Demi-vérité, t'as un mensonge. » Il suggère des pensées impures, des fois même des pensées insensées. Repoussez-les par la parole de Dieu. Entretenez-vous des bonnes choses, tout ce qui honore Dieu, tout ce qui lui plaît. Tournez vos pensées vers le Seigneur à la place. Le diable, c'est aussi lui qui a été, semble-t-il, le premier à être orgueilleux. Et Satan a été jeté, il était un ange de lumière auparavant, puis il est devenu, il s'est enflé d'orgueil. L'orgueil. Vous savez, le roi David, un jour, et la Bible le dit même, dans Chroniques, chapitre 21, que Satan l'a tenté en disant à David, « Fais le dénombrement de toute ton armée pour voir. Tu vois que tu es quelqu'un vraiment d'important maintenant. » Et même Joab, son général en chef, ne voulait pas que David fasse cela. Puis David a insisté. Puis il a payé pour aussi. L'orgueil s'était emparé de lui. Et voilà que il avait commencé avec 600 hommes, il était rendu, je pense, à 1 700 000, quelque chose comme ça. Il y avait toute une armée, là. Satan est venu pour dire, « Hey, David, t'es quelqu'un maintenant. Il n'y a pas une armée qui te résiste au monde. T'es le plus fort. » David a appris une leçon, là. Les circonstances adverses. Le livre de Job est bien clair. Hein? Qui est-ce qui est venu devant Dieu pour essayer de faire trébucher Job? C'est Satan. Les circonstances adverses peuvent nous amener vraiment à... Et sa femme a tombé dans le piège en disant, « Maudit Dieu, et meurt! » Elle aurait voulu, et Satan voulait bien que Job maudisse Dieu, mais Job ne l'a pas fait. Le diable vient dans les circonstances difficiles de la vie pour qu'on se détourne de Dieu. « Ah, c'est ça Dieu, ok d'abord. On fait mon affaire tout seul. » Non. Ça, c'est le piège du diable. Le découragement face aux difficultés de la vie. Il y a des choses difficiles qui arrivent des fois. On tombe dans ce piège du découragement, de l'abattement. Plutôt que de regarder vers le Seigneur, on regarde par terre, on regarde nos situations, puis on dit, « Ah, comment je vais m'en sortir? » Ou la peur. L'apôtre Pierre dit quoi? Le diable vient comme un lion rugissant. Et vous, dès que vous rencontrez un lion en liberté, vous autres? Moi, en tout cas, si j'en rencontre un, j'aurais peur. Un lion rugissant. Alors, le diable a des moyens, frères et sœurs, pour essayer de nous faire trébucher. Il faut connaître ces moyens-là et savoir y résister aussi. Apprendre à y résister. Ceux qui ont lu un petit peu au sujet de la Deuxième Guerre mondiale, vous savez qu'il y avait un général, un maréchal allemand qui s'appelait Rommel, qui a combattu en Afrique du Nord. On appelait ça la bataille de l'Afrique du Nord. Et ce maréchal-là était un soldat bien formé. Et il a même écrit un livre avant la Deuxième Guerre mondiale, ça s'appelait « Attaque d'infanterie ». Et là, en Afrique du Nord, le général Patton est arrivé, général américain, et, en tout cas, j'ai lu ça, il semble qu'il aurait envoyé un message à Rommel en lui disant « J'ai lu ton livre. En d'autres mots, je connais tes tactiques. » Et c'est bon, frère et soeur, de savoir quelles sont les tactiques du diable afin de les déceler et de ne pas tomber dans le piège. Et les Américains ont remporté la bataille du désert. Démasquer des stratégies de Satan pour être aux aguets. Alors, Paul dit quoi? Ayez la vérité pour ceinture. Ça, c'est la première. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'esprit de vérité. Comme c'est important de connaître la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, vous témoignez à quelqu'un, puis oui, tu es correct, tu as ta vérité, mais j'ai ma vérité aussi. Finalement, chacun a sa vérité. Non, la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est sûr. Chacun sa vérité, ça, c'est l'erreur. La vérité, Jésus dit quoi? Que la vérité, elle va nous affranchir. Elle va nous libérer, merci Seigneur. Avant ça, on était captifs, maintenant on est libérés par la vérité. La vérité, elle nous sanctifie, c'est une parole qui change notre cœur, qui nous transforme. Elle éclaire notre marche, l'homme, le jeune homme qui marche éclaire son chemin par sa parole. On a besoin de la vérité. L'Église est appelée le pilier et le soutien de la vérité. L'Église est là pour proclamer la vérité et démasquer les fausses doctrines. Les faux enseignements, les épîtres du Nouveau Testament en parlent pas mal de ça. La deuxième pièce de son armure, c'est la cuirasse de la justice. Et la cuirasse était formée de deux pièces, une en avant, une en arrière, en cuir, qui était attachée par des lacets, et qui protégeait quoi? Les organes vitaux. Ça correspondrait aujourd'hui à une veste par balle. À peu près ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alléluia. Dieu nous donne un cœur nouveau. Mais ce cœur nouveau-là, on se doit de le protéger. On doit le préserver avec cette armure-là que Dieu nous donne. Le livre des Proverbes nous dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur, mets ta cuirasse, de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur de l'amour ou de l'argent, garde ton cœur de l'amertume, garde-le de l'inquiétude, aime Dieu de tout ton cœur. Le juste, il accomplit les œuvres de Dieu. Il est compatissant et il donne. Le juste ne chancellera jamais, nous dit le livre des Proverbes, tant et aussi longtemps qu'il garde sa cuirasse. Mais s'il retire sa cuirasse, imaginez le policier ou le soldat qui enlève sa veste par balle. Il s'expose. Mais avec une veste par balle, il protège sa vie. Alors, faisons pareil. Gardons cette cuirasse-là. La troisième arme qui est donnée, et on ne pense pas vraiment que c'est une arme, mais pourtant, ça faisait partie de l'équipement du soldat. C'est celle-ci. Les chaussures du zèle. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Béni soit Dieu. C'était des sandales pour le soldat romain, mais des sandales bien fixées aux pieds de façon à tenir ferme, parce que les soldats romains, ils marchaient beaucoup. Ils se déplaçaient longtemps. L'Empire, c'était grand. Pas pour rien qu'on construit des routes, pour que les déplacements se fassent plus facilement. Mais ils marchaient. Quelques-uns étaient à cheval, plusieurs étaient à pied. Vous avez qu'à lire la série, vous allez le voir. Ils étaient à pied, alors il y avait des bonnes chaussures. Le zèle que donne l'Évangile de paix. Alléluia. Dieu, frères et sœurs, veut nous donner ce zèle aussi pour annoncer l'Évangile, pour aller plus loin. Imaginez un soldat qui enlève ses chaussures. Il ne fera pas long. Parce qu'il va avoir des ampoules aux pieds, ce ne sera pas long. Et puis finalement, il va tout se faire porter, mais il va arrêter là. On a besoin aussi de nous chausser du zèle de l'Évangile. Le zèle de ta maison me dévore, a dit le Seigneur. Il est animé d'un vif désir d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, ne nous relâchons pas dans le zèle, dans le service envers les autres, mais continuons et persévérons afin d'annoncer l'Évangile et de servir aussi dans l'Église. Ça demande du zèle, cela, mais Dieu nous aide dans ça. Mais le zèle, ça risque de nous atteindre, de nous attirer les fautes de l'adversaire. S'il voit qu'on est pas mal zélé, il va essayer de s'arranger, de nous braquer un peu. Alors, frères et sœurs, veillons aussi, parce que le malin sait ça, il voit ça. Alors, il faut lui présenter quoi? Le bouclier de la foi. Il était rectangulaire, en bois recouvert de cuir, les flèches enflammées rebondissaient sur sa surface lisse. C'est un grand bouclier. Et c'est comme ça que le soldat se prémunissait. On voit aujourd'hui dans les manifestations, les policiers ont des boucliers aussi. Pour se protéger. Il cachait la plus grande partie du corps du soldat. Et son efficacité dépendait de l'habileté du soldat à s'en servir, de ses réflexes également, parce que si la pièce vient de là-bas, t'es mieux de le mettre là. Parce que si tu le mets là, tu vas te faire atteindre. Alors, il devait vraiment être aux aguets. Ça, c'est la foi qui résiste aux tentations soudaines. La flèche s'en vient rapidement. La tentation, comme je dis tantôt, elle arrive quand on ne s'y attend pas et quand on ne se méfie pas. Et c'est là qu'on peut se faire atteindre. Alors, il faut vraiment être aux aguets. Joseph et la femme, vous savez, le jeune Joseph, là, le beau jeune homme et la femme de Potiphar, qui chaque jour essayaient de l'attirer vers elle. Heureusement que Joseph a mis son bouclier. Il s'est enfui. Il a fui la tentation. Il a fui l'occasion de chute. Et on doit faire pareil, frère et soeur. S'éloigner des circonstances, des occasions qui peuvent nous faire trébucher, même en pensée. Et Paul dit quoi ici? Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Et j'ai lu, dans un commentaire, que les soldats romains plongeaient leur bouclier, avant la bataille, dans de l'eau, afin de le rendre plus imperméable. Et lorsqu'une flèche enflammée, parce que la flèche enflammée, c'est la pointe étant enveloppée d'un tissu quelconque, avec un liquide inflammable, et alors quand ça arrivait sur le bouclier qui était imbibé d'eau, eh bien, ça rebondissait, il ne prenait pas feu. Donc, il se protégeait ainsi. Mais surtout, ne déposez pas votre bouclier, parce que c'est là que vous en aurez besoin peut-être. Les flèches enflammées visent quoi? Notre sanctification, notre obéissance, nos convictions. Résistez-lui avec une foi ferme. Le casque du salut est la suivante. Ça, le casque du salut, ben, tous les soldats en ont. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Le casque du salut protège la tête et la tête contrôle tous nos membres. Alors, si le soldat retirait son casque et puis qu'il recevait un coup de gourdin sur la tête, pouf, tombe à terre. Tu dois être l'homme le plus entraîné, le plus fort, tu reçois un bon coup sur la tête, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il fallait qu'il protège sa tête. On doit protéger nos pensées également. C'est pour ça que Paul dit ça ici. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, faire attention à ce qu'on entretient dans nos pensées. Pour garder les bonnes choses. Parce que le diable voudrait bien nous déstabiliser ou provoquer des étourdissements. En fait, j'ai lu un livre qui s'intitule « Le champ de bataille de la pensée ». Quelqu'un a déjà lu ça? Oui, très bon livre. « Le champ de bataille de la pensée ». Il y a un véritable champ de bataille dans nos pensées. Et le malin sait. Et il va essayer de nous troubler, de nous faire nous séduire ou quoi que ce soit d'autre. On doit veiller sur cela. Et c'est pour ça que Paul l'a écrit ici. La dernière arme, c'est l'épée de l'esprit. Celle-là, c'est pour attaquer. Pour répondre, riposter à l'adversaire. C'est une arme offensive, mais peut-être jusqu'à un certain point défensive. C'est la parole de Dieu, donc, qui nous est donnée pour répondre aux circonstances, pour faire face aux assauts, faire face aux pièges, aux ruses. La parole qui nous est donnée, donc, pour résister et tenir ferme. Et contre-attaquer. Quand le diable est venu pour tenter le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il est écrit. Et le diable s'éloignait. Alors, il est bon de se rappeler de ce qui est écrit, de lire la parole régulièrement, de laisser ça s'impénétrer en nous. Et lorsque vient une circonstance, « Oh, le Saint-Esprit me rappelle une parole que j'ai lue. Il me donne une parole pour la circonstance présente. Il est écrit, « Oui, Seigneur, merci pour sa parole. » Afin de repousser l'adversaire. Ça peut être un verset. Des fois, ça peut être un chapitre ou la vie d'un personnage biblique. Mais Dieu nous donne des paroles. On a besoin de ces paroles-là vraiment pour persévérer avec lui. Il est écrit, « Va et toi, fais de même. » Le Seigneur nous donne des paroles donc pour nous aider dans cela. Le soldat, j'ai dit tantôt, le soldat, il lutte d'abord pour sa sécurité personnelle. Il faut qu'il soit bien protégé, il faut qu'il soit aux aguets pour être en sécurité de façon à poursuivre son travail. Sinon, s'il ne fait pas attention, il devient un soldat inutile. Dès qu'il est blessé, il est mis de côté. Il veille sur sa sécurité personnelle. Jésus dit quoi? Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez d'abord sur vous-même. Mais il veille aussi sur la sécurité de ses compagnons d'armes. Parce qu'ils font une équipe ensemble. La Bible dit quoi? Veillez les uns sur les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Ou encore, priez les uns pour les autres. Et marchez d'un même pas. Donc, on fait équipe ensemble. On a une communication ensemble. Et le combat du chrétien, ça ne se fait pas d'une façon volontaire, isolée de l'Église. Se retirer volontairement de l'Église, c'est comme un soldat en Afghanistan, quand nos militaires étaient là-bas, qui dit « Ok les gars, moi je m'en vais », et puis qui part tout seul à l'aventure. Pensez-vous qu'il va tenir longtemps? Non. Il prenait tous les moyens pour être ensemble, être en sécurité. Et le chrétien qui décide, moi j'ai besoin d'église, je peux m'en penser, je vais faire mon affaire, tu vas voir, il est une cible facile pour l'adversaire. Facile. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas, mais de ceux qui décident volontairement de s'en éloigner, ils deviennent une cible facile. Et l'adversaire le sait, puis il va les prendre au piège. Le chrétien lutte aussi pour les étrangers. Ce matin, on a prié pour les gens en Haïti. Vous priez peut-être pour les membres de votre famille qui ne sont pas convertis, peut-être pour des gens au travail, peut-être pour des voisins, peut-être pour les gens à qui on va évangéliser sur la rue. Le chrétien lutte pour les étrangers. Ça, frère et soeur, c'est ce à quoi on est appelé, comme croyant, afin de les libérer des captifs. Dans les évangiles, on voit que Jésus a libéré beaucoup de gens qui étaient captifs. On est appelé à faire la même chose, à aller vers les gens pour leur faire connaître la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia! Et les amener dans le royaume de Dieu. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est notre ministère aussi, notre appel en tant que croyants, d'aller vers les gens, de leur témoigner, de prier pour eux, afin qu'ils soient délivrés. Ça, c'est la vie du soldat. C'est chacun de nous, on est appelé des soldats. Peu importe le grade, sergent, caporal, colonel, appelé à être des soldats, à travailler ensemble. J'aimerais que les musiciens viennent maintenant. J'ai une couple de questions à vous poser, mais bien sûr, la réponse, vous la gardez pour vous. Avez-vous mis de côté une des armes et que peut-être que vous êtes tombé dans le piège de l'adversaire? Ou bien êtes-vous fatigué de combattre? Au livre des Juges, il est dit que lorsque Gédéon et ses hommes poursuivaient l'adversaire, il est dit au chapitre 8, Fatigué, mais poursuivant toujours. Et parfois, on peut devenir fatigué de lutter pour tout résister, puis on fait face à l'adversité, soit dans la famille, soit dans le voisinage, ailleurs, puis on est sollicité de toutes parts. Oh, on va prendre un break. Non. Mais on peut être tenté de faire ça, fatigué. Mais poursuivant toujours. Et c'est là que le Saint-Esprit nous vient en aide, frères et sœurs, qu'on va devenir comme les jeunes lions, pleins d'audace. Dieu va nous aider dans ça. Dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de vétérans. On est combattants jusqu'à notre mort. Combattants jusqu'à la mort. On peut prendre un ministère différent. On est appelé à combattre, à lutter, à résister. Aussi longtemps qu'on aura un souffle dans notre corps. Peut-être qu'il y a des blessures aussi. Beaucoup de gens ont des blessures dans la vie. Et je crois que Dieu guérit les blessures. Mais il faut juste penser à ceci. Une blessure, parfois, ça a suscité de la colère envers quelqu'un qui nous a fait mal. Des fois même, la colère envers Dieu qui a permis ça. Et puis, quand la colère reste, l'amertume s'installe. Et je crois que ça vient faire obstacle à la guérison. C'est pourquoi il faut d'abord s'examiner soi-même et voir, Seigneur, est-ce que j'ai quelque chose dans mon cœur qui fait obstacle maintenant? J'ai-tu laissé entrer quelque chose qui fait obstacle? Et si oui, demandez pardon à Dieu. Et puis la guérison va s'opérer. Qu'on peut fermer les yeux maintenant? Je vais demander ici ce matin, si vous êtes tombé dans un des pièges du diable, dans une de ces ruses, que vous en êtes conscient et que vous voulez être libéré de ça, je vais vous inviter à lever la main seulement, me le signifiant devant la main. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres aussi, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui lèvent la main? J'en vois aussi en arrière, en haut. Vous pouvez baisser la main maintenant. Si vous êtes fatigué de combattre, puis vous avez comme un peu délaissé, pas délaissé le Seigneur complètement, non, mais un peu pris du relâchement, levez votre main. Je vais me prier avec vous aussi. Je vois aussi des mains qui se lèvent. En arrière aussi, en haut. Merci, vous pouvez baisser votre main. Si vous avez subi des blessures par votre entourage, peut-être votre famille, peut-être par un chrétien, et que ce n'est pas guéri, d'abord, sondez votre cœur. Mais Dieu veut vous guérir. S'il y en a qui ont été blessés ici et que ce n'est pas guéri, vous pouvez lever la main si vous voulez. Je vois encore d'autres mains qui se lèvent. Oui, merci. Je vois d'autres mains aussi. Merci, oui. Je vois plusieurs personnes ce matin. On va se lever ensemble si vous voulez. Alors, Seigneur, tu es notre général en chef. Tu es celui qui a vaincu pour nous toute adversité, toute tentation, toute circonstance. Tu n'as jamais laissé tomber tes armes. Tu as toujours été aux aguets. Et cette victoire, Seigneur, que tu as remportée, est aujourd'hui notre victoire. Notre victoire. Seigneur, je prie que ceux et celles qui ont laissé tomber momentanément une arme ou deux, qui s'en revêtent à nouveau, avec confiance, avec assurance et détermination. Et Seigneur, on repousse les accusations du diable qui dit, « Ah, t'es pas un bon chrétien, tu vas bien te trébucher, tu feras jamais mieux dans l'avenir. » Non, on refuse ça. On croit au contraire qu'en Jésus, je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur de Jésus-Christ sur cette terre. Je suis un soldat revêtu des armes de Dieu. En Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Oui, Seigneur, on repousse ces mensonges de l'adversaire. On repousse ces pièges de l'adversaire. Et Seigneur, je prie pour ceux qui ont subi des blessures, parfois depuis longtemps, oh mon Dieu. Seigneur, que leur cœur soit pur devant toi, oh Dieu. Oui, Seigneur, que rien qui s'en fasse obstacle à leur prière aujourd'hui. Mais au contraire, Seigneur, au contraire, qu'ils puissent avoir un cœur qui va s'ouvrir à toi pour reconnaître toute faute, mais en même temps, recevoir ta guérison. Seigneur, tu es un Dieu qui guérit parfaitement. Parfaitement. Même des fois, on ne voit même plus la cicatrice de ce que c'était. Et je crois, oh mon Dieu, que tu veux le faire ici aujourd'hui parmi nous. On est faible parfois. Seigneur, des fois, on était un peu négligent. On s'est laissé aller. Mais en toi, aujourd'hui, on veut se ressaisir. Être revêtu de tes armes pour remporter d'autres victoires et repousser de l'adversaire le malin avec toutes ses ruses et ses pièges, afin, Seigneur, que ton Église soit triomphante, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, pour pouvoir partir d'ici la tête basse ce matin, mais la tête haute en toi, ô mon Dieu, avec assurance, avec confiance et détermination, au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Nous prenons la victoire, oh mon Dieu, sur toutes ces choses, le mal que le diable a pu nous causer, toutes ces choses qui nous ont abattus parfois, le découragement, on prend autorité en ton nom, oh mon Dieu. Et nous repoussons ces choses-là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur quelques moments, si vous voulez, frères et sœurs. Alléluia. On veut te louer et te bénir, Seigneur, car en toi, oh mon Dieu, nous sommes grands. En toi, Seigneur, on est plus que vainqueurs, oh mon Dieu. En toi, Seigneur, le diable a été écrasé sous nos pieds, oh Dieu. Alléluia. Louange à ton nom, Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Oh Dieu, sois loué, sois béni, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu nous appelles, mon Dieu, pour être des héros de la foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de l'Évangile, mais qui vont le représenter dignement dans cette terre, oh mon Dieu. Alléluia. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On peut chanter un dernier chant? Vas-y, mon frère.